Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Je crois qu'il y a peu de sujets qui cristallisent autant de fascination, de fantasmes et d'angoisse que l'intelligence artificielle, de façon générale, et particulièrement dans la mode. Parce qu'au fond, la mode est déjà une industrie de projection. Une industrie qui fabrique des images, des désirs, des imaginaires. Et aujourd'hui, voilà que les IA promettent de produire tout cela sans appareil photo, sans mannequin, sans studio, parfois même sans réalité physique. Un vêtement 3D, un prompt, quelques secondes de calcul et soudain, une campagne entière apparaît. Alors évidemment, pour les marques, c'est vertigineux. Produire plus, moins cher, plus flexible, personnalisé à l'infini, réduire certains coûts, accélérer le e-commerce et j'en passe. Mais derrière cette efficacité presque magique, énormément de questions apparaissent. Vous vous en doutez bien. L'IA augmente-t-elle la créativité ou la standardise-t-elle? Car dans un monde où tout est centralisé par la data, finalement, si on combine projection et création d'images avec des désirs calculés, on n'a presque plus besoin de réfléchir et simplement entrer des prompts, des calculs, des données. Et voilà qu'une collection entière complètement désirable peut être générée en quelques secondes. Mais pour en parler aujourd'hui, non seulement d'un point de vue assez général, c'est-à-dire comprendre un peu les grandes évolutions, mais aussi d'un point de vue très technique, notamment sur les collectes de données, sur la formation des LLM. Eh bien, aujourd'hui, je reçois Valérie Brunet, représentante du logiciel Style 3D, qui développe notamment sa nouvelle proposition Moda, un outil de génération d'images de mode mêlant simulation 3D et intelligence artificielle. Moda permet notamment de générer des images de packshots, de campagnes. Enfin bref, on va parler de tout ça en détail. Puisque ensemble, nous allons essayer de comprendre très concrètement ce que ces outils changent technologiquement, économiquement, juridiquement, écologiquement et bien sûr culturellement, puisque nous parlons encore une fois d'une industrie créative. Alors si cet épisode vous plaît, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez aller sur l'Instagram de Décousu pour ne rien louper, donc Décousu Podcast, partager l'épisode autour de vous et mettre une note sur votre application de podcast et un commentaire, c'est une formidable aide qui ne vous coûte rien et qui vous prend quelques secondes. Allez, moi je laisse cette introduction brève et je vous dis un très bon épisode. Alors aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Brunet pour parler d'un sujet assez sensible dans le monde de la mode de luxe et pour autant un sujet absolument essentiel aujourd'hui. Donc, avant de vraiment commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, Valérie, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, dans quoi tu travailles pour qu'on puisse bien saisir l'enjeu d'aujourd'hui?
Donc, je m'appelle Valérie Brunet, je suis directrice commerciale pour l'éditeur de logiciels Style 3D, en charge du marché français et Benelux. Je travaille donc depuis Style 3D depuis 4 ans, depuis 2022. Mon parcours, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie de la mode. J'ai commencé précisément en 2008 chez Adidas, où j'étais de l'autre côté, j'étais du côté retail ou wholesale. Donc, j'étais responsable grand compte auprès d'une distribution sport, on va dire, mass market, low entry, comme on appelait. Voilà, j'ai fait 4 ans de ce côté-là, donc découvrir les difficultés de la précision des forecasts, de la justesse, combien mon client il veut acheter, c'est quoi ses besoins sur le marché a besoin de quelle quantité, et puis bien évidemment toute la partie négociation avec des grandes enseignes de la distribution. Ensuite, j'ai bifurqué en 2011 chez Havaiana sur un poste de direction commerciale pendant 6 ans. Et toujours dans ces mêmes questions, je me disais, mais la tech, elle peut vraiment nous aider. Et pourquoi on a si peu de technologie? Donc là, je vous parle de 2016-2017. Donc l'IA, autant vous dire, c'était un sujet qui n'existait absolument pas, on n'entendait absolument pas parler. Même si l'IA, c'est pas nouveau, c'est plutôt vieux, hein, puisqu'elle existe depuis les premiers algorithmes ont été créés finalement dans les années 50-60. Voilà, donc j'ai creusé, j'ai quitté cette société, j'ai commencé à creuser en me disant mais il y a une opportunité, puisque que ça soit dans l'industrie du luxe, enfin, le secteur du luxe, de la mode, de la fast fashion ou du middle market, On a tous les mêmes besoins, c'est d'estimer combien je dois produire et quelle va être ma demande sur le marché. Parce que derrière, il y a un impact qui est assez énorme. Effectivement, c'est les invendus. On parle de taux de sortie, de taux de sell-out, de sell-through en anglais. Grosso modo, quand on a bien vendu une collection, on se parle de 80% de taux de sortie, mais il reste toujours 20% en stock. Donc ça, c'est au volume global. Et ensuite, effectivement, quand on descend au modèle couleur et à la taille, alors là, on rentre dans des élucubrations. Et souvent, comme on dit en anglais, c'est des intuitions, c'est fait au gut feeling. Voilà, donc je me suis dit, c'est assez étonnant que personne ait modélisé, qu'on s'appuie pas sur des outils. On a quand même des nouveaux... Donc Instagram est arrivé en 2011. On sait qu'Instagram a quand même révolutionné le secteur de la mode, hein, complètement transformé le secteur de la mode. Il y a énormément de données, énormément de data. Donc pourquoi ces data ne sont pas extrapolées, sont pas utilisées tout simplement. Donc j'ai commencé à prendre mon petit bâton de pèlerin. Donc j'avais monté mon cabinet de conseil pour accompagner. Je suis allée chercher des solutions des startups, hein, donc des très belles solutions. Je pense à Euritech notamment, qui est une très belle solution française. Aux États-Unis, Sustalytics, qui a été fondée par une ancienne de chez Zara, qui avait exactement les mêmes sujets. Alors chez Zara, on ne se parle pas de 50 000 pièces, on se parle de 500 000 pièces. Hein. Puis dans une maison de luxe, ça va être 200 pièces ou 500 pièces. Mais donc, plus la marque est grosse en volume, plus les besoins sont importants. Et donc, j'ai consolidé cette offre et c'était effectivement l'émergence. Et on commençait à mettre en place les premiers algorithmes, à comprendre, à modéliser, à partir de signaux faibles sur les réseaux sociaux. Ok, qu'est-ce qui se passe sur mon sac Dior, hein, y a un très célèbre cas, ou sur ma tongue, je suis capable d'aller dire mes modèles de vente, ma projection à 9 mois sur mes nouveautés. Ce nouveau design, je le soumets à un panel de potentielles clientes qu'on appelle les lookalikes en fait, et ça va être quoi? Donc en fait, c'est une étude de marché ni plus ni moins en ligne, mais qui permet d'avoir, comme c'est de la grosse donnée, on ne se parle pas d'une étude de marché avec 500 personnes, mais on se parle de milliers d'utilisateurs, de savoir les projections. Et les modèles mathématiques sont extrêmement bons puisqu'on arrivait quasiment, enfin ils arrivent toujours à 90% de justesse. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 ans, 4 ans. Et puis ensuite, j'ai été petit message sur LinkedIn, petit message en chinois. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Donc très curieuse. Effectivement, c'était Cécile 3D qui se lançait sur le marché européen et français et qui recherchait en fait un interlocuteur capable de comprendre et la mode, l'expertise de la mode du secteur et aussi de la technologie pour pouvoir aller présenter son offre.
Alors oui, donc... Ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, là, ce que ton parcours permet bien de comprendre, à la fois, c'est l'enjeu, évidemment, data, big data, etc., que forcément, aujourd'hui, on a un peu tous en tête quand on parle de l'IA. C'est qu'on a aussi ta vision vis-à-vis de ton rapport très produit, très production, quoi. On n'est pas juste dans la théorie ou dans l'analyse. Il y a aussi un côté très terre-à-terre, en fait, de combien il y a d'entrants, combien il y a de sortants, etc. Et comment ça s'analyse pour après avoir des vraies directives concrètes. Et donc, style 3D, on va commencer à un peu mieux l'introduire, puisque tu nous parles d'un message en chinois, tout ça un peu intriguant, etc. Tu nous parles de data, de projection. Mais finalement, pour bien comprendre ce que c'est que style 3D, puisque je pense que tous les auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est, c'est vrai que moi, je t'ai découvert parce que ça fait depuis... En fait, c'était quand il y a eu l'explosion de Meta, tout ça, machin, le métavers, les cryptos, tout ça. Donc, il y a fort longtemps maintenant, j'avais commencé à m'intéresser à toutes ces questions un petit peu forcément de réalité augmentée, etc. Et comment c'était appliqué dans la mode. Donc, on avait vu certains acteurs comme Fashion X, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on voyait, on voyait uniquement avec des images en réalité augmentée. Je me suis dit, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'est-ce qui se passerait d'un point de vue logiciel et data sur le produit et sur la production concrète. Et donc j'ai commencé à regarder notamment les questions de modélisation pour en fait à gagner sur le matériel, utiliser le digital vis-à-vis de la matière finale. Et donc Style 3D, en termes de rendu, de sensibilité matière, etc., m'a paru le logiciel le plus performant, puisqu'il y avait beaucoup de logiciels comme Clo 3D qui sont aussi héritiers des jeux vidéo, etc., qui existaient. Mais Style 3D, c'est vraiment dédié à la mode. Donc, pour bien comprendre ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que c'est que Style 3D, le workflow, comment ça fonctionne? Et puis, nous, aujourd'hui, on va parler de Moda, ce qui vient de sortir, qui est nouveau, que tu pourrais un peu nous présenter aussi.
Tout à fait. Donc en fait, Style 3D est un éditeur de logiciels. Alors quand je dis éditeur de logiciels, c'est vraiment tout un écosystème dédié à l'industrie du textile. Alors, dans textile, c'est vrai qu'on résume souvent, et notamment quand on est basé à Paris ou en France, on a le réflexe de la mode. Mais tout ce qui est matériaux souples, en fait, je devrais plutôt dire. Donc, les matériaux souples, ça va très très loin. Ça va tout ce qui est sellerie. Donc, les selleries, ça peut être celle d'équitation, mais ça peut être sellerie dans les voitures automobiles. Et derrière, effectivement, bah, y a du patronage. Hein. Quand on coupe, notamment quand on a des sièges en cuir, il faut du patronage, il faut couper, il faut modéliser. Ça coûte extrêmement cher, notamment quand on est sur la phase de prototypage. Donc on est un écosystème dédié à toute l'industrie des matériaux souples. Alors la petite histoire, c'est notre patron qui s'appelle Eric Liu, a fait ses études en Europe fin des années 90 à la VUB à Belgique, qui est assez réputée notamment sur tout ce qui est modélisation 3D. Et puis ben, donc jeune étudiant chinois, des moyens plutôt modestes pour financer ses études. Un ami lui dit, bah, écoute, là, il y a la levée des quotas en Europe, c'est une opportunité pour la Chine, viens, on va ouvrir une usine textile, et puis les marques, là, elles cherchent des prix moins chers, toi, tu vas prendre ta voiture avec tes prototypes, et tu vas faire l'agent, finalement, entre ces marques demandeuses en Europe et en France, et moi, la Chine, j'ai les usines. Et donc, il a cofondé une structure aujourd'hui qui est devenue très, très grosse, qui s'appelle Cashion, qu'on appelle une ODM, hein, c'est ni plus ni moins qu'une usine qui va fournir quasiment clé en main des styles pour donc des marques middle market, premium, bon, bah, typiquement Sandro, Maje, Monoprix, voilà, et puis on va à Inditex, etc., Gémeaux, etc. Et donc de cette expérience, il s'est dit, mais en fait, donc il découvrait l'industrie de la mode, hein. Il dit, mais ils sont fous avec tous ces prototypes. Effectivement, ça c'est toute la partie, l'iceberg, la face cachée de l'industrie. Alors en France, les stats vont diverger selon, puis il y a toujours une retenue à évoquer les vrais chiffres, parce que quand on parle avec une marque, ou de prototypes, moi j'en fais que deux, puis en fait quand on commence à auditer et à calculer...
Alors que pourtant, on est un des pays qui légifère le plus là-dessus aussi. Donc,
Absolument, mais je pense que c'est absolument tabou, et ça montre aussi probablement... Parce que quand on fait les audits et qu'on dit, mais en fait, t'en as pas deux, t'en as neuf là en moyenne, et certaines c'est jusqu'à 60. Hein. L'audit qu'on a fait, c'était, bon, je ne donnerai pas le nom, c'était jusqu'à 60 prototypes, et même eux, en fait, quand on a présenté l'audit, parce qu'en fait, les équipes, elles sont en France, en Espagne, en Hong Kong, donc on a reconsolidé le pulse, et dit, ah oui, donc en fait, ils étaient mis devant le fait accompli. Donc tout ça pour dire, bah, effectivement, énormément de prototypes. Et donc Eric, notre patron, s'est dit, mais en fait, donc, c'est un vrai, vrai sujet dans l'industrie. Et que ça soit dans le luxe, que ça soit dans le sport, que ça soit dans le middle market, tout le monde fait appel à un prototype. OK, l'idée créative, on va dessiner, on va drafter. Et puis derrière, bah, le prototype, je l'envoie à mon fournisseur, qu'il soit basé prochain port, Turquie, Maroc, Asie. Alors, effectivement, il reste encore quelques usines en France, mais c'est assez rare. Et puis surtout, comme il y a une question de coût, voilà. Et donc, énormément de prototypes. Il s'est dit, vrai sujet, on va pouvoir seulement résoudre le problème de cette industrie si et uniquement si, finalement, on arrive à modéliser en 3D et on arrive à avoir ce qu'on appelle un jumeau numérique ou un digital twin. D'où effectivement l'importance accordée au scan des matières et à la qualité, au rendu des simulations 3D. Donc oui.
Oui, et alors parce que du coup, donc on comprend bien que c'est parti vraiment d'une problématique concrète, encore une fois, métier. Très industrielle et métier. Et en fait, comment ça a évolué et qu'est-ce que ça permet d'avoir recours avec le digital? Quel problème ça permet de résoudre d'un point de vue concret pour qu'on puisse bien comprendre la valeur ajoutée de ce genre de logiciel?
Oui, tout à fait. Donc, on parlait des échantillons physiques, des très nombreux prototypes. Hein. Derrière, quand on parle d'échantillons physiques, si on parle d'éco-responsabilité, bah, ce sont des DHL. Hein. Donc ça, pareil, on n'en parle pas. Il y a juste, effectivement, bah, on a des chiffres, c'est des volumes, c'est des avions complets de prototypes qui arrivent. Et puis derrière, on a des équipes qui vont finalement trier. OK, on retient pas.
Bien sûr, les fournisseurs sont délocalisés, ça c'est, il faut prendre en compte aussi, c'est pas du tout
Bah en fait si on exclut effectivement, si on, alors le luxe on va dire c'est un...
Non, on parle de la mode at large là.
Ok, donc la mode largement, oui, principalement c'est 90%, 80% c'est complètement délocalisé et en fonction des prix et de la rapidité, finalement le sourcing va être, parce qu'en fait on a besoin des produits sous 3 semaines, donc ça va être du Maghreb, et si ça peut attendre 8 semaines, et ben ça va être de l'Asie, alors Chine, maintenant la Chine devient très chère, mais Bangladesh, Inde et Vietnam, voilà, c'est les 4 foyers de sourcing, et là on est sur 8 semaines. Voilà.
Et après, par contre, je tiens aussi à préciser que certes, là, on parle de la mode en règle générale, mais dans le luxe, c'est pareil. Hein. Enfin, je veux dire, il ne faut pas croire que même les produits de prêt-à-porter sont faits en bas de la maison, par un petit artisan. Non, c'est pareil. Enfin, je veux dire, je pense que plus personne ne pense à aujourd'hui, quand même. Faut pas, voilà. Mais que ce soit des questions du Portugal ou ailleurs, etc., c'est quand même pas la porte à côté. C'est évidemment... avec des circuits aussi courts, on cherche à aller le plus vite possible, donc soyons aussi honnêtes et réalistes. Donc, style 3D a commencé là-dessus, mais ça a aussi évolué par rapport à toute la dimension de visualisation 3D.
Tout à fait.
Aussi des mannequins, des matières. Je parle de... On a vu un peu plus avec l'époque aussi, donc du coup, du métavers, où là, on a carrément vu des avatars tout entiers avec des vêtements digitaux. On s'est dit, est-ce que c'est ça le mode de demain ? Bon, depuis, c'est retombé comme un soufflet, mais ça a été intéressant de voir que la visualisation de pièces digitales, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde très digitalisé, sur les réseaux sociaux, très dématérialisé, donc le rapport qu'on a est avant tout un rapport d'image, même si ça tend à changer, mais donc du coup, en tout cas, cette transformation qu'on a eu du rapport au produit par le e-commerce, par le digital, a permis aussi de comprendre que la visualisation digitale d'un produit n'était pas du vent, mais était une vraie façon de s'engager, non seulement en tant que producteur, quand on parle de prototype, mais aussi en tant que consommateur. Donc, si le 3D, comment... Il est passé aussi d'un métier produit à quelque chose à couvrir un peu le côté 360 de l'image du vêtement, donc le côté mannequinage, visualisation, etc. Et aujourd'hui, quelle place prend dans l'écosystème ? Et on pourra parler comme ça de l'arrivée de Moda.
Oui, tout à fait, super. Bah, effectivement, donc, en fait, quand on parle d'écosystème, donc on va avoir le logiciel Style 3D Studio qui va permettre de modéliser. Les avatars, ils vont être paramétriques, donc on est capable de recréer un mannequin. Donc plus un mannequin cabine, mais un mannequin aux mensurations paramétriques. Donc on est extrêmement précis, on va jusqu'à 80 points de mensuration. On va scanner la matière et recréer ce digital twin. Donc notamment dans le luxe où les matières sont extrêmement chères et coûteuses. Hein. On se parle sur certaines matières de 20 000 euros du mètre carré. Donc en fait, avant de couper, bah, c'est quand même bien de le modéliser, et, de voir si on est bien d'accord sur la matière, sur le tombé, sur le rendu. Ça, c'est le logiciel fabrique. Et effectivement, une fois que on a mis au point le vêtement, j'ai créé mon patronage, j'ai vérifié le tombé, j'ai vu s'il n'y avait pas des erreurs, parce que souvent, finalement, la 3D permet d'aller vérifier. On est bien d'accord sur mon fit ? Ok, ma fille, ma personne, ma mannequin, elle a un peu des fesses ou un peu moins des fesses. Je veux que le vêtement, il tombe bien.
Et éviter que ça grigne ou qu'il y ait des faux plis, parce que ça, c'est terrible quand on se rend compte en prototypage.
Ah bah bien sûr, des problèmes de poche, des problèmes de doublure, des problèmes de construction, finalement, sur le vêtement. Et puis, il y a deux sujets, particulièrement aussi dans le luxe, c'est les mannequins qui sont là pour faire rêver pour les défilés. Voilà, donc ils font souvent du 32-34, voilà, et qui n'est pas du tout la cliente lambda d'une marque de luxe. Donc en fait, c'est prototypé pour la mannequin qui va faire rêver sur les défilés, et puis prototypé pour madame la cliente qui va finalement acheter.
Ouais, c'est ce qu'on appelle la gradation. Alors peut-être que
c'est la mise au point du vêtement, effectivement, en intégrant les éléments de gradation à partir du patronage. Voilà, ça permet aussi l'écosystème. Donc on va arriver sur la partie Moda et la partie créative, mais ça permet de se dire, parce qu'aujourd'hui il faut quand même se le dire, hein, et notamment dans les maisons de luxe, on est encore beaucoup, donc il y a des sujets de craftsmanship, de savoir-faire, on veut faire les choses à la main, mais les choses à la main, bah, c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux, c'est des ressources, et pour vous donner un exemple, typiquement, vous avez une chemise, vous développez une chemise avec votre logo. Dans les maisons de luxe, on ne va pas aller mettre une couture sur le logo. On respecte le logo, et notamment au niveau des empiècements et des emmanchements. Donc, ça va être fait à la main. À quel endroit on va positionner, si c'est le double C ou un autre logo, n'est-ce pas ? Et donc, on va faire un patronage avec le design en taille 34, 36, 38, 40. C'est extrêmement chronophage. Voilà. Donc, notre logiciel permet justement d'aller modéliser. On se parle de quelques clics. Hein. J'ai inséré mon logo et derrière, c'est prêt pour production. Hein. C'est go to production, c'est-à-dire que mon patronage qui est fait sur modélisation 3D, je vais pouvoir l'exporter en 2D, pouvoir le positionner sur ma lèse, mon tissu, et savoir précisément à quel endroit ma machine de coupe va passer pour couper. Si elle est coupée à la machine, maintenant on est quasiment sur toutes des machines de coupe automatisées, mais ça va placer mon patronage et de savoir pour ma taille 34, taille 36, à quel endroit je dois couper par exemple mon emmanchure ou placer mon col pour que ça tombe parfaitement. Notamment dans les maisons de luxe, c'est énormément ces sujets, ces cas d'usage, le tombé, que ça soit des pièces plus de prêt-à-porter, notamment du prêt-à-porter, j'ai un jogging, à quel endroit mon logo il veut veut tomber et qu'il faut que ça tombe parfaitement. Hein. C'est quand même voilà, le sens de proposer un très beau produit. Donc,
comprend aussi que coupler cette vision du patronage, etc., avec aussi les systèmes de coupe automatisés, ça permet aussi de faire des grosses économies matières.
Exactement, donc ça fait des économies de matière et pour les équipes en charge des achats au sein de ces maisons de luxe ou enfin de toute autre maison, c'est de calculer les besoins en matière. Parce qu'effectivement, quand on se parle de 20 000 euros du mètre carré, bon, bah, est-ce qu'on passe sur une matière à 18 000 ou à 22 000 ? Est-ce que ça nous donne des opportunités ? Et grosso modo, on va gagner jusqu'à quasiment 5%. Parce que, alors après, on a un autre logiciel. Style 3D a racheté une solution qui s'appelle Assist. J'aime bien l'appeler comme ça, c'est le Lectra allemand. Lectra, c'est très connu en France. Assist, c'est beaucoup moins connu en France, mais c'est la même solution, précision allemande, qui effectivement, une fois que j'ai mon patronage, donc des formats DXF, donc on va se servir des ressources du cloud, et en fait, c'est l'ordinateur qui va calculer, qui va positionner sur la lèse, en fait, à quel endroit je vais positionner mon patron pour optimiser justement les coûts matières. Voilà.
Alors, et donc là, vraiment, ça, je trouve ça fascinant parce que là, on est sur le côté hyper... alors, j'espère qu'on ne vous a pas enseveli de mots techniques, mais on est sur le côté, en tout cas, compréhensible sur l'importance et l'usage plus que bénéfique que peut représenter le digital et les nouveaux outils numériques. Là, je veux dire, il faudrait vraiment difficilement avoir des arguments pour être contre tout ce qui vient d'évoluer. Le sujet aujourd'hui, je le rappelle aussi par rapport au titre de l'épisode, ça va vraiment être de parler aussi de la visualisation 3D et de l'usage de l'IA. Mmh. Donc, sur ça, il y a plus de tabous. On va pouvoir en parler, mais du coup, là, maintenant, il est clair en tout cas que Style 3D et les différents acteurs digitales à ces questions-là font partie du sens, quoi qu'il arrive, de l'évolution du métier. En fait, on va vers ça, quoi qu'il arrive, tout le monde l'utilise. Lectra, aujourd'hui, c'est un indispensable, on le sait. Mais donc sur les questions notamment de ce qui se passe aujourd'hui chez vous, est-ce que tu pourrais nous parler de en fait aussi la question du visuel, de la génération du visuel, et là maintenant aussi a beaucoup de liens avec en B2B sur par exemple les campagnes pour les acheteurs en interne, mais il y a aussi là tout ce qui va être aussi dédié aux clients. Donc sur les campagnes visuelles aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça.
Tout à fait.
Donc ça, il me semble que c'est votre nouveau module qui s'appelle Moda. Qui vient d'être lancé, si je ne m'abuse. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus là de quoi il s'agit maintenant qu'on a parlé de l'aspect technique et métier ?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, alors Moda, Style 3D Moda, est une plateforme d'IA générative qui finalement va permettre tout le processus, aider ouais, au processus créatif à partir d'une simple idée. Alors peut-être pour repositionner le contexte, effectivement, que ça soit le luxe ou que ça soit toutes les industries, hein, tout à l'heure on parlait d'Instagram et de toujours plus de nouveautés, toujours plus d'aller de plus en plus vite. Les créatifs subissent une énorme pression, que ça soit au sein des maisons de luxe, que ça soit dans toutes les industries. Ils doivent avoir une création démultipliée. Certains sont même venus nous voir en disant c'est quoi vos outils ? Donc nos outils, effectivement, c'est l'IA générative. Je tiens aussi à rassurer que l'IA ne va pas remplacer les créatifs. Simplement, je pense que le métier de demain, les créatifs vont devoir utiliser les outils d'IA pour être augmentés.
Alors, petite parenthèse, là, je vous invite à écouter notamment l'épisode qu'on a fait la semaine dernière avec Pierre-François Lelouette de Nelly Rodi, où justement on parlait de comment est-ce qu'aujourd'hui, justement parce qu'on est dans une ère de l'IA, la créativité va être en fait dans un nouvel âge d'or ?
Ouais, ben c'est en tout cas un débat absolument passionnant, intéressant. Nous, on a vu, Moda n'est pas nouveau, ça s'appelait iWish au sein de Style 3D. Ça existe depuis 2 ans et demi. Et effectivement, avec mes collègues, on a vu l'évolution spectaculaire.
Avec les deepfakes, maintenant, tout le monde peut générer tout et n'importe quoi. Hein.
Absolument. Et en fait, ce qui est intéressant au début, alors quand on commence à présenter ça aux maisons de mode, de luxe, et voilà, ton mannequin, il louche, ton mannequin, il a 6 doigts ou il a 6 pieds. Effectivement, il était perfectible. Donc, on avait plutôt des petites des petites moqueries gentilles en disant ah ah ah, c'est, ça va pas être tout de suite qu'on
c'est,
va.
C'est ce qu'on appelle l'uncanny valley, cette période de transition où c'est suffisamment humain pour qu'on puisse reconnaître qu'il y a une volonté que ce soit très reconnaissable, mais c'est trop bizarre encore pour que ce soit complètement crédible.
Voilà.
Et pour l'instant, on est un peu dans cette charnière. Mais là, les résultats que je vois sont assez bluffants.
Et donc, on a effectivement passé cette période. Donc, il y avait une attente, effectivement, on attend de voir. Simplement, ce qu'il faut aussi comprendre avec l'IA, c'est que ça va extrêmement vite.
Ah, ben,
donc, en fait, donc l'IA aujourd'hui, hein, et c'est ce que je dis souvent avec nos clients chez Style 3D, ça se passe grâce à du GPU. Les GPU, c'est des cartes graphiques qui sont développées par NVIDIA. Aujourd'hui, si vous regardez la valorisation d'NVIDIA, il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas d'IA générative et il n'y a pas de 3D sans carte graphique et du GPU. C'est de la puissance de calcul. Donc, on a vu l'évolution très rapide. Nous, nos équipes de développeurs, on a une grosse armée de développeurs qui sont basés en Asie, qui codent. On est au rythme chinois. On n'est pas sur des timings européens. Je précise parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la bataille de l'IA Chine-US. D'ailleurs, c'est intéressant. Aux États-Unis, Silicon Valley, ils sont passés sur les horaires chinois 9-9-6-7, voilà, parce qu'en fait, c'est des vrais sujets de souveraineté.
Surtout en Chine, pour le coup.
Et donc,
en tout cas, l'Europe, malheureusement, est pas hyper en avance sur ce
sujet. Non, là, je pense qu'il va falloir un réveil massif parce qu'ils vont très vite. Effectivement, donc aujourd'hui, on propose un écosystème complet pour le créatif. Donc en fait, on va très loin. Il a une idée créative, il a un sketch, il va le soumettre et l'algorithme va faire des propositions. Et ensuite, on intègre des agents qui vont permettre de co-créer. Un peu, je résume un peu comme ça, ChatGPT, vous allez prompter, et puis ensuite, ok, fais-moi une modification, c'est exactement le même principe avec Moda, ok, mon graphisme, tu peux me rajouter des perles, tu peux me rajouter une bouclette, et en fait, on va co-construire comme ça. Et donc, on va arriver à un modèle précis, on va rajouter le mannequin généré par IA. Donc, effectivement, toute cette partie-là va éviter toute la partie de prototypage, et si on a un directeur artistique, d'aller soumettre les éléments. Go, no go, on produit, on lance le prototypage ou pas du tout, on oublie l'idée. Donc ça permet d'aller démultiplier finalement les idées. Voilà.
Alors oui, parce que je veux pas non plus quand même tomber dans un idéalisme idiot, c'est-à-dire que il faut quand même aussi rappeler comment fonctionne l'industrie de la mode en réalité. C'est-à-dire que souvent on a l'impression qu'il y a une cavalcade de créatifs qui sont là comme des artistes, etc. Bon, en fait, il y a aussi beaucoup de studios. Alors là, je parle dans la mode en règle générale, pas dans le luxe, mais le luxe c'est pareil aussi. C'est-à-dire que on va moins vouloir produire des vêtements parce que ça a une créativité folle que parce que aussi ça répond à un impératif industriel. Faut pas être bête non plus, c'est-à-dire que la mode c'est une industrie avant tout. En fait, ce genre de travail-là permet aussi de répondre à des problématiques. Moi, ce que je pense à titre personnel, c'est que ce qu'il faut, c'est pas permettre d'aller encore plus vite, ce serait de ralentir, mais juste ça permet, entre guillemets, d'avoir un travail plus performant, mais moi, je pense qu'il faudrait pas chercher à aller plus vite, mais c'est un autre sujet. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, intéressant d'une part et inquiétant pour certains métiers d'autre part. Après, moi, je pense que de toute façon, l'époque évolue et qu'on peut pas faire comme si l'évolution n'allait pas se passer, donc il faut prendre le pli et puis réfléchir autrement. Mais par rapport effectivement à ce que tu disais dans la notion où tu peux avoir des retours avec rajoute-moi une bouclette, rajoute-moi une broderie XI, etc. En fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'industrie qui sont uniquement des relais par rapport à ce qu'on va attendre en fin de collection. C'est pas des créatifs échevelés comme ça. Le côté directeur artistique, c'est très 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 rare. En fait, c'est une personne et quelques créatifs dans les studios, et encore ça c'est vraiment dans le luxe, et ces métiers là ne sont vraiment pas un danger, au contraire. Aujourd'hui, nous en interne, parce que moi je travaille dans le luxe, et surtout on n'a jamais autant protégé et voulu laisser sur un piédestal les créatifs. Donc ce genre d'outil là en fait c'est vraiment une aide à la créativité sur ces aspects là voilà, c'est parce qu'en fait je voudrais pas non plus qu'on croie qu'aujourd'hui sans IA la créativité est reine partout dans la mode. C'est pas du tout le cas. Donc c'est une façon d'aller plus vite et de faire en sorte que la matière à la fin soit vraiment une matière qui soit travaillée à la fin, et pas de façon perdue en fait durant toutes les premières étapes. Mais donc, par rapport au fait que ça génère des images, etc., il y a quand même un risque, c'est-à-dire que comme on parlait beaucoup de la data, de la donnée, etc., en fait, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui, et là on va devoir parler aussi de ça quand même par rapport aux métiers qui pourraient se perdre, de simplement rentrer dans en langage en langage numérique, etc., rentrer toutes les datas qui ont été faites en se disant, bah, il y a eu telle couleur, tel modèle, tel pourcentage qui ont été vendus, etc. Généralement une collection. Hop. Et puis, hop, là, on a clé en main une collection pour, bah, tu parlais d'Inditex, etc. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait pareil? Est-ce que ça, aujourd'hui, mm-hmm. c'est quelque chose, par exemple, que Moda pourrait faire? En fait, en quoi son usage va servir concrètement?
Ouais. Alors là, je pense que tu touches le rêve, finalement, de tout dirigeant d'entreprise de mode, puisqu'en fait, son rêve, hein, finalement, on va se dire les choses, c'est de générer du chiffre d'affaires et développer son chiffre d'affaires en ayant le moins d'invendu possible. Et aussi avec des ressources réduites, hein, ça c'est le gros sujet.
Et rencontrer le désir du client immédiatement, quoi, sans perdre.
C'est ça. Simplement, je pense que... Alors c'est passionnant, c'est beaucoup plus complexe que cela. Moi, je maintiens que l'IA, c'est un outil. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment se dire, y a un cavalier, c'est le créatif, et puis il est sur sa monture, il est avec un cheval, il doit galoper ou trotter. Et effectivement, comment il va utiliser ses outils. Est-ce que demain, il y ait des algorithmes qui, en appuyant sur le bouton, ça soit tout codé, tout ligné, en disant, OK, nous, on a vendu ça. Oui, ça pourrait arriver. C'est évident que...
Temu, etc., c'est sûr qu'ils vont le faire.
Ouais, c'est une très bonne question. Enfin, nous, on l'a vu dans des marques de fast fashion, plus en Europe. Je ne sais pas particulièrement ce que font les marques en Asie, mais effectivement, ils développent en interne. Ils cherchent à casser les modèles. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des équipes d'ingénieurs, des développeurs, notamment dans ces grandes marques de fast fashion, qui développent des algorithmes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et alors ça, je vais en parler, hein, puisque ça a été ouvertement dit à Pia Yaparel à Londres il y a un mois et demi, de la part d'H&M, qu'aujourd'hui, leur best-seller avait été créé grâce à l'IA, mais c'était un humain qui était derrière, donc ils analysaient la donnée, et puis ensuite, alors pourquoi ce best-seller? Ça, c'est très intéressant, parce que les modèles sont beaucoup plus nouveaux et beaucoup plus créatifs. Et donc, il nous a présenté le modèle. La pièce était juste sublime. Et donc, c'était une pièce, donc c'est un total look avec énormément de coupes, des manches bouffantes. Voilà. Donc, des pièces qu'on ne voit absolument pas sur le marché. Et là, ça pose aussi la question dans la mode. Est-ce que la mode, le fait qu'il y ait une sorte d'entre-gens, une sorte de... On se nourrit des images... Parce qu'ils vont tous sur Instagram, ils vont tous sur les sites internet des autres. On l'a vu, on voit comment ils travaillent nos clients. Bah voilà. Puis alors aujourd'hui, avec les outils numériques, c'est hyper facile. Screenshot, clac, c'est ça. Ça, c'est la best-seller de chez Zara. Tiens, je veux la même, mais du coup...
C'est pour ça que je parlais du fait qu'il ne faut pas avoir une vision idéaliste, comme si sans IA, c'est le règne de la créativité. Non, justement. C'est pas le vrai débat, il n'est pas là. C'est comment est-ce qu'on va utiliser ces nouveaux outils.
C'est ça. Donc, les outils existent. Les équipes doivent s'en emparer. Comment elles s'en emparent? Je pense qu'en fait, là, on est vraiment à l'ouverture, et c'est absolument passionnant, de champs des possibles et des opportunités. Voilà. Donc, nous, Style 3D Moda, on propose ces outils. Donc, on est capable, effectivement, d'importer un sketch, le transformer en image, une image en vidéo, de prompter, hein, de taper un texte. Alors, ça aussi, c'est un autre sujet des nouvelles compétences, parce que plus le prompt va être précis et développé, meilleur sera le rendu. Voilà, donc c'est des outils qui sont à disposition des équipes. Oui, ça devient pour moi incontournable. Voilà, donc après, il existe Moda, mais il existe plein d'autres outils sur le marché. On voit que nos clients font le tour de l'écosystème, ils testent. Notamment, il y a des gros acteurs historiques dans le numérique qui ont mis à disposition, hein, je parle de Google, hein, notamment Gemini, voilà, qui vont être aussi intéressantes. Voilà.
Et bah alors justement là on va pouvoir commencer à parler des questions un peu plus techniques parce que justement encore une fois ce dont je parlais dans l'épisode précédent avec monsieur Pierre-François Lelouette, c'était notamment forcément la crise économique dont fait face le luxe en règle générale aujourd'hui, et que ces nouveaux usages de l'IA peuvent permettre aussi une respiration dans les coûts fixes, notamment je pense à tout ce qui va être visuel, campagne, etc. Mm-hmm. Et donc là où je voudrais vraiment qu'on aborde des sujets, parce qu'il y a plein de problématiques derrière, c'est-à-dire sur quelles images vous basez pour générer, pour alimenter l'IA, comment on fait en termes de propriété intellectuelle, le fait que ce soit aussi un logiciel chinois, il y a beaucoup de problématiques là-dessus aussi. Et donc là concrètement, j'aimerais aussi comprendre finalement comment fonctionnent et quels sont les usages de Moda. C'est-à-dire que là, on a bien compris, par exemple, pour générer une collection, mais là, moi, je vais aussi parler de tout ce qui est là pour l'image, pour, par exemple, les photoshoots, les campagnes, les visuels. Donc, ça suppose, tu parlais justement de... on a attendu de voir comment est-ce que l'image pouvait être meilleure. Donc, aujourd'hui, vous en êtes où en termes de réalisme de l'image, du tombé de la matière? Est-ce que le client fait la différence entre une photo et ça? En fait, vous générez quoi comme image et pour quels usages aujourd'hui?
Alors, beaucoup de questions. Beaucoup de questions dans les questions. Donc on est un spécialiste de la mode et du textile, et ça, c'est extrêmement important parce que je parlais précédemment des autres IA. Les autres IA vont être beaucoup plus généralistes. Nous, notre spécialité, effectivement, je montrais quelques visuels. Voilà, on va comprendre le détail du vêtement, une dentelle, une guipure, un élément des plumes. Ça, c'est des choses qui existent dans la mode et qui doivent être retranscrites.
Je vous invite à aller sur l'Instagram de Décousu, je mettrai des images.
Les IA génératives, on va dire classiques, elles ne sont pas spécialistes. On le voit, nos clients reviennent vers nous en disant « Ah bah oui, on a testé cet algorithme, mais finalement, il n'est pas intéressant parce que la rayure, l'algorithme l'a réinterprété, elle ne tombe pas horizontalement, mais elle va tomber verticale. » Voilà. Donc ça, c'est sur l'aparté, sur le détail du vêtement, mais c'est clé, quoi. Voilà, c'est clé.
C'est plus que clé, parce que c'est tout petits détails qui font que on passe
fait la différence.
De la crédibilité à c'est une blague, quoi.
Et exactement, voilà. Maintenant, on passe aussi l'IA de la perfection. Donc, je vous ai parlé il y a 2 ans et demi où c'était imparfait sur les mains, on voyait en disant on va pas y toucher, à c'est trop parfait.
Ouais.
Donc là, c'était il y a 1 an, c'est trop parfait, on veut pas l'utiliser parce que c'est
des
mannequin.
Trop symétrique,
trop photoshopé. Ça. Tu vois, des images beaucoup trop photoshopées, donc on n'en veut pas, c'est pas sur notre site. Voilà, donc on a ces discussions qui sont mouvantes et qui évoluent très rapidement. Et maintenant, donc, on a fait des retours à nos équipes en disant, en fait, finalement, pour que ça soit réaliste, pour que l'IA soit réaliste, il faut qu'elle soit imparfaite.
Ouais,
c'est toujours le sujet de la parfaite imperfection ou l'imparfaite. Voilà.
Exactement.
Donc, oui.
Ah, c'est bluffant.
Donc, on propose des solutions. Donc, dans notre écosystème Moda, effectivement, on appelle ce qu'on appelle du garment try-on, donc de l'essayage virtuel. Montrer quelques visuels, tout ça, par exemple. J'ai mon mannequin, j'ai mon vêtement, et je lui demande d'aller générer, j'ai prompté, parce qu'entre-temps, je lui dis que je voulais une robe. Voilà. Mais je veux qu'elle soit imparfaite, mais aujourd'hui, tu mets ça sur un site internet, tu ne fais pas la différence avec un vrai photoshooting, en fait.
Parce que là, pour les auditeurs, là, actuellement, Valérie est en train de me montrer un visuel, donc ça, c'est une image que tu as générée uniquement par un prompt. Enfin, je vous montrerai, parce que c'est vraiment bluffant, quoi.
Ouais.
C'est incroyable.
Absolument, tout ça, c'est des images générées depuis un prompt, grâce à notre agent.
Voilà, parce que, alors, justement, moi, par rapport à cette question du textile, donc j'imagine aussi que vous avez, vous, en interne, un musclage de votre propre IA, mais par exemple, sur les questions de rendre, là, on a sur des plumes d'autruche, quoi, c'est absolument, absolument dingue. Une grande question aujourd'hui, enfin, ça fait longtemps maintenant qu'on parle de ça, mais par exemple, du marketing sensoriel, dans le sens où la grosse question, c'est de se dire, bon, dans un monde où on est médié par le digital et le e-commerce est devenu une habitude d'achat, comment est-ce qu'on fait en sorte de traduire la sensorialité par l'image? Donc c'est vrai que l'imperfection sur ça, elle est absolument clé. Et aujourd'hui, en fait, comment vous faites pour travailler à ces éléments-là, pour travailler à ce que vraiment le résultat final, en fait, on va dire une pièce qui n'existe pas encore. Pour une pièce qui existe déjà et on dit bon voilà, rends-la moi un peu plus imparfaite, ok, mais par exemple une pièce qui n'existe pas du tout et un créatif par exemple discute avec Moda et dit lui bon j'ai cette image en tête etc et qui va générer quelque chose, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui? Enfin, quels sont les usages concrets en termes de génération d'images pour un prototype qui n'existe pas?
Ah ben en fait, c'est absolument illimité. Donc, c'est un peu la magie des algorithmes où on va prompter, et l'algorithme aujourd'hui il est devenu puissant, c'est peut-être pas le mot, mais extrêmement pointu, et il est capable d'aller interpréter. Donc, plus tu seras précis, plus vous serez précis dans vos prompts, l'algorithme y comprend. Donc, on parlait de l'imperfection. Il faut que l'image, elle soit donc cette parfaite imperfection. Donc, pour venir un peu sur nos modèles, en fait, on avait nos propres images, nos propres sets de données. Ça, c'est très important, parce que je sais que le sujet, il est très sensible. Nos algorithmes, on repose sur du LLM, Large Language Model. Et en fait, ce sont des algorithmes qui sont auto-apprenants. Voilà. les serveurs, pour un peu digresser, en fait, on propose le choix à nos clients. Toute la R&D, elle est faite en Asie. En Asie, on va, donc on propose à nos clients asiatiques les serveurs, bon, le leader, c'est AliCloud, hein, Alibaba, d'Alibaba. Et en Europe, en fait, on va faire un copier de la duplication du code sur les serveurs. Donc, en fait, on propose les services sur de la ressource Amazon Web Services. Voilà.
Et comment on fait pour tout ce qui est protection de la donnée? Parce que par exemple, là, avec ce genre de détails sur lesquels on peut aller, j'imagine aussi que, par exemple, pour travailler toutes les matières les plus complexes comme le satin, la dentelle, ce qui va être maille, etc., vous pouvez aussi vous travailler sur des savoir-faire comme ça ou...
Alors, la donnée, hein, ça c'est vrai qu'il y a une confusion autour de ça. Toutes les données, elles sont encryptées et anonymisées. Donc le client, il a accès à sa plateforme. Et seul, lui seul, sait ce qui se passe sur sa plateforme. Quand il envoie une requête auprès du serveur, c'est anonymisé et encrypté. Donc nous, on n'a absolument aucune vision de ce qui se passe sur les serveurs. C'est la propre, il fait sa cuisine, hein, sur sa propre donnée. Voilà. Ensuite, on peut proposer pour les clients qui seraient extrêmement... ça, c'est dans le luxe, on voit ça dans le luxe. On développe sur les propres serveurs du client. Voilà.
Voilà, parce que ma question, c'est-à-dire que...
Mais, oui. Ouais. On développe sur les propres serveurs du client, mais le client, donc, il va avoir soit ses serveurs à Paris, ou il va faire appel, notamment, je pense, dans Luxe, ils ont son sur les ressources de Microsoft Azure. Mmh. Voilà.
Oui, parce que, par exemple, est-ce que vous travaillez avec des avocats sur ces questions-là? Parce que les réglementations aussi sur la protection de la donnée ne sont pas les mêmes sur des serveurs chinois que sur des serveurs européens. Donc, vous avez aussi, vous, une protection pour bien avoir tout en interne? Alors, parce que, le client n'est pas propriétaire de son algorithme, là, quand il utilise Moda.
Non, il n'est pas propriétaire de l'algorithme, mais par contre, toutes les requêtes qui sont générées, il est propriétaire des requêtes qui sont générées, donc des rendus qui sont générés sur ses propres serveurs. Voilà.
Oui, mais parce que par exemple, quand vous travaillez sur des choses aussi délicates que de la dentelle, mettons, je pense par exemple à l'IFTH qui a aussi des façons de pouvoir scanner des matières, etc. Mettons une maison de luxe à une, je sais pas, le sage par exemple dans ses archives va ressortir un échantillon de 1920, va vouloir le scanner parce qu'il voudrait le refaire pour une nouvelle collection. Là, il va dire bon bah je le scanne, je le mets dans mon prompt pour Moda pour générer des visuels pour voir si ce serait intéressant pour une robe. Du coup, ça va aussi alimenter. Non, comment ça se passe?
Ah non, pas du tout. C'est la donnée, elle est encryptée. Et en fait, si c'est les archives de la maison Le Sage, ça reste la propriété et le motif de la maison Le Sage. Nous, en fait, on va juste faire travailler l'algorithme pour faire des propositions. En général, on va lancer 2 ou 4 prompts et on va faire des modifications de pattern. Mais la modification de pattern, elle n'a rien à voir avec style 3D. C'est juste, on a fait tourner les algorithmes et ils vont sortir un nouveau pattern. Mais rien ne va chez style 3D. Ça, je tiens à le... Enfin, c'est trop des sujets beaucoup trop sensibles. Ouais. Et encore, une fois, ce sont des algorithmes qui sont auto-apprenants. Donc, on leur apprend finalement à co-construire finalement sur une base déjà existante et à démultiplier. Donc, plus finalement, on va avoir de la donnée, et bien finalement, meilleurs vont être les algorithmes aussi. Voilà.
Comment vous faites alors pour aller chercher la donnée sur des matières aussi exceptionnelles que sur du savoir-faire vraiment en interne dans les maisons, comme sur par exemple vraiment de la dentelle d'exception, de la broderie d'exception? Comment vous faites pour travailler sur ces rendus-là alors pour avoir la donnée
en
là-dessus?
En fait, après, c'est de la composition d'image, hein, si je puis me permettre, ou de graphisme. Et en fait, mais l'algorithme, il va faire une proposition, il va faire des simulations. Comment dire peut-être pour prendre un exemple, est-ce que c'est... j'ai une base de gâteau, hein. Peut-être l'exemple, il est hyper basique, mais fais-moi une forme ronde, fais-moi une forme carrée, triangle, et c'est l'algorithme qui va être créatif et qui va dire, sors-moi 4 possibilités à partir de cette recette de 4 gâteaux différents, je sais pas si...
Oui, mais là, alors, par exemple, parce que là, je parlais, par exemple, mettons sur, je sais pas, moi, on fait de la broderie au point d'Alençon, je pense par exemple à les brodeurs qu'il peut y avoir chez au 19M ou peut avoir parfois de la broderie en 3D ou des nouvelles façons de faire de la broderie qui est gérée pour chaque collection. Vous, sur ce genre de détails-là, pour aller à ce point-là dans le détail du savoir-faire, pour par exemple avoir ce point spécifique de la broderie d'Alençon, etc., est-ce que vous pouvez générer à ce point-là ce savoir-faire-là? Parce que ça suppose forcément que vous ayez des intrants d'une maison d'exception. Donc comment vous travaillez aussi pour avoir des savoir-faire du luxe aussi développé, vous pouvez générer ce genre d'image?
Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas comment expliquer ou comment... en fait, l'algorithme, il va interpréter. Alors, très important, très important. La donnée, tu charges une dentelle, c'est la propriété, il y a un design de dentelle, c'est la propriété de la maison de broderie ou de dentelle.
Parce que je faisais la partie cryptée, tout ça.
Ouais, c'est crypté, c'est encodé, voilà. Ce qui va être généré, j'ai 4 propositions, ça va être la propriété, c'est pas notre propriété, c'est la propriété de la maison ou de la marque qui a généré. Il faut quand même savoir que l'IA, par exemple, sur les mannequins, peut-être que l'exemple il sera plus parlant, quand je génère un mannequin, que je vais demander à mon algorithme, tiens, j'ai fait ma simulation en 3D, je vais lui mettre un visage généré par IA, à chaque génération d'IA, c'est un visage qui est unique. Donc ça, c'est un peu la magie de l'IA. Donc pareil sur ton imprimé, l'imprimé il va être à chaque fois unique, parce que dans le codage, en disant, fais-moi une simulation qui n'a jamais existé. Voilà. Donc, je sais pas si je suis plus claire comme ça.
Oui, alors, ça l'est, forcément, c'est parce que...
En fait, faut vraiment comprendre que le code, c'est une ligne de code, c'est une ligne de... une succession de symboles, d'ordres, de commandes, c'est une commande, en disant, ok, ça c'est ma donnée d'input, clac, 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 ça c'est ma simule de mon code, qui va dire, à partir de cet input, fais-moi 4 propositions, en coloris, avec des variantes, avec un graphisme, etc. Donc nous, c'est juste le code, et la sortie va être encryptée, anonymisée. Donc rien ne va chez nous. Et pareil, donc on n'est pas content, enfin le designer il dit oh, non mais tu peux faire mieux là. Tac, il va relancer un prompt, soit par écrit, soit par vocal, soit il va effectivement loader une image, une couleur et croiser les deux. L'algorithme c'est juste le... Est-ce que c'est le conducteur d'une voiture? Est-ce que... comment donner une image? C'est juste un chef d'orchestre en fait. Oui, et on va jouer la partition
oui,
en fait.
C'est le vaisseau quoi, c'est bien
ouais,
sûr.
Ouais, c'est peut-être le chef d'orchestre finalement, j'ai mon orchestre. Et puis derrière, bah tiens, joue-moi... rythme, 4 temps, 2 temps, ok, tu me rejoues la partition? Non, ça va pas, ben, rejoue la partition, voilà. Mais il va pas, il est pas propriétaire de la musique, par exemple.
Bon, alors forcément, ouais. Là, j'ai posé ces questions-là parce que moi, de par mon prisme luxe, forcément, c'est une obsession dans le secteur, ouais. Je pense que tu le sais mieux que moi. Mais là, maintenant, j'aimerais réouvrir la focale et parler notamment des cas d'usage concrets et notamment de toutes les questions de retour sur investissement que peut permettre ce genre de logiciel, parce que là où c'est absolument fascinant et je voudrais pas que... Je sais que c'est des sujets tabous, notamment par rapport à la créativité en France, etc., sur la dimension, oui, mais et les photographes, et les stylistes, etc. Mmh. Il faut bien avoir en tête que sur des visuels, vraiment, sur, par exemple, sur des pack shots, sur des éléments assez basiques, en fait, simplement d'images, etc., en réalité, on n'a pas besoin, parce que c'est souvent des exécutants purs et durs, hein, souvent les photographes, c'est pas non plus des grands créatifs sur... On parle pas, là, de créatifs pour des campagnes type Vogue, type des grosses, par exemple, Scorsese pour Chanel, c'est pas le sujet, là. Là, je parle de la mode en règle générale. Ce genre de logiciel permet d'aller extrêmement vite sur toutes les pack shots, sur tous les visuels de campagne, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Et puis aussi, est-ce que vous avez déjà des retours sur combien ça permet d'économiser pour une marque ce genre de visuel? Donc, les cas d'usage un peu plus concrets.
Merci beaucoup pour cette question, mais je vais quand même revenir sur la précédente parce que en fait, je trouve que ça cristallise énormément et notamment tous les débats qu'on peut avoir en France et notamment dans les maisons de luxe qui vont vraiment, mais le mot c'est vraiment cristalliser, on fait du caramel sur ces sujets de créativité et d'algorithme et de propriété. Enfin, la mode, enfin, faut quand même se dire les choses, les défilés aujourd'hui, ils sont tous sur Instagram, il y a rien d'exclusif, il y a rien de fermé, tout le monde a accès à Internet. On disait tout à l'heure, avant de commencer l'entretien, tout le monde va regarder ce que fait le copain sur le e-commerce, un screenshot. Enfin, on parle souvent effectivement de copie, de propriété intellectuelle, mais regardez en interne comment vos équipes, enfin vous savez comment vos équipes en interne travaillent. Et parce que bah, ça a été, je sais pas... institutionnalisé ou ça a été mais c'est comme ça et moi quand je le vois et quand je vois comment travaillent certains de nos prospects, certains de nos clients enfin on voit comment ils travaillent. Bon bref, je ferme la parenthèse là-dessus et donc c'est dommage d'aller cristalliser sur ces sujets de je copie nanana, mais en fait le vrai sujet c'est mon client final, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir et qu'est-ce qu'il attend? Aujourd'hui, si on porte un vêtement, si on achète un vêtement, je pense que c'est parce qu'on veut être différent. Voilà, on veut être cool et on veut être aussi différent. Outre, j'ai besoin d'être habillé, bien évidemment. Et moi, je pense, et il y a eu, effectivement, on voit ce qui se passe, il y a un ralentissement dans l'industrie du textile et de la mode, mais parce qu'en fait, on voit tout le temps les mêmes choses. Mais c'est boring! Je vais souvent en Asie grâce à mon travail. Plus souvent, on cristallise aussi la Chine, c'est des copieurs. En fait, vous regardez la mode en Chine, ça a strictement rien à voir. Ils sont des cool boys, cool girls, ça a strictement rien à voir de ce qu'on peut voir en Europe. Je ramène des pièces parce que j'ai l'occasion de faire un peu du shopping, j'en profite. Et je reviens en France, on me dit, mais t'as trouvé ça où? C'est trop bien. Je reviens une doudoune, elle était hyper coupée, du matelassage et tout ça. Je dis, en fait, ça vient d'une usine en Chine, voilà. Parce qu'en fait, j'ai acheté cette pièce parce qu'on la trouve strictement pas en France. Et en fait, on est trop dans cet écosystème fermé d'entre gens qui sont... Enfin, je me répète un peu, donc, les outils d'IA permettent d'aller... Allons débrider la créativité et arrêtons de cristalliser, mon IA, mon idée va être copiée. Mais bon, voilà, la mode, ça a toujours été... on s'inspire, on prend des idées, mais maintenant, comment je suis... Augmenter, le mot, il n'est pas très beau, mais comment finalement j'ai ces outils pour aller plus loin dans la créativité.
Augmenter, moi j'ai vraiment l'impression que c'est surtout un usage de, on dit, think out of the box. C'est-à-dire que, en fait, vraiment aujourd'hui, on pense dans un entonnoir. En fait, l'IA, je pense que comme c'est pas un être humain par essence, il n'a pas tous ses biais psychologiques de ça va plaire, ça va pas plaire. C'est juste, on me dit de penser autrement, je vais le faire, basta.
Oui.
Et donc, du coup, ça permet aussi d'ouvrir certains champs. Mais là, l'heure tourne, donc j'aimerais quand même vite revenir sur ces questions, je disais, de cas concrets, de retour sur investissement, etc.
Je vais parler du e-commerce. Alors, effectivement, donc, on va générer des pack shots. Et effectivement, ça, c'est aussi une nouvelle révolution dans l'industrie. Parce qu'effectivement, toutes les marques ont besoin de visuels, de contenu visuel pour vendre, que ce soit sur la site e-commerce ou les réseaux sociaux, les canaux e-commerce.
Ça coûte très cher, les campagnes visuelles.
Et ça coûte très cher, en effet. Alors, selon qu'on ait une marque de luxe ou selon qu'on ait une marque de mass market, allez, pour donner une idée, dans le mass market, je pense qu'on va sortir un visuel entre 20 et 55 euros l'image, en sachant qu'il faut 5 images pour aller nourrir un site e-commerce, front view, back, etc. Enfin, il y a 5 images minimum. Et puis dans le luxe, alors là, les prix vont s'envoler, voilà, parce que derrière, il faut un directeur artistique, un studio photo, un make-up artiste.
Au dernier moment,
voilà, il faut les échantillons. C'est puis derrière, il y a une ligne directrice, il y a les photoshootings. Voilà. Donc aujourd'hui, pour faire un photoshooting avec l'IA, aujourd'hui, on va sortir... on a deux possibilités. La première, c'est nos équipes. On va générer du contenu, mais on va sortir l'image à peu près à 16 euros sur des petits volumes. On va avoir des remises dégressives. Et quand on va nous demander 150 000 images, on va descendre à 7 euros l'image. Voilà. Voilà. D'accord. Et là, comme je te disais, on va très très vite. Maintenant, on est en train d'aller automatiser des agents sur la partie IA, c'est-à-dire qu'on va coder, on va mettre en place des serveurs, on met des requêtes spécifiques. J'ai mon haut, parce qu'en fait, c'est ça, c'est combiné. J'ai mon mannequin. Mon mannequin, c'est quoi le brief? Il est souriant, il a quel type de peau, dans quel contexte, dans quel studio photo shooting, photo studio, photo outdoor. Donc, j'ai mon haut, j'ai mon bas, j'ai mes accessoirisations. Donc, en fait, on va dire à l'algorithme, compose-moi une photo, donc input, output. Et donc, c'est la machine qui va générer ces images. Voilà.
Et en quoi vous allez plus loin, par exemple, qu'un Midjourney ou, tu vois ?
Comment ?
En quoi vous allez plus loin qu'un Midjourney
Oui, parce qu'en fait, comme on est un spécialiste de l'industrie et de la mode et qu'on comprend ou qu'en tout cas nos clients nous soumettent leurs problématiques, on travaille sur leurs problématiques. Voilà. Et donc là, avec ce type d'agent qu'on est en train de développer et ce type de service, les prix vont encore drastiquement baisser. Ouais.
En fait là, alors évidemment c'est un podcast donc c'est problématique, mais j'invite tout le monde à aller chercher à voir, parce qu'en fait là on parle, moi quand j'avais vu Style 3D au tout début, je trouvais ça hyper impressionnant, mais parce que j'avais l'image jeu vidéo dans ma tête, donc je trouvais que c'était parfaitement jeu vidéo-tesque et c'était incroyable dans ce cadre-là. Là, c'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on me montre ça, on me montre une image concrète d'un pack shot d'une marque même complètement écolo ou j'en sais rien, donc avec des trucs ultra méga authentiques, on veut voir la fibre et tout machin, c'est pareil quoi. C'est, alors, je veux dire effrayant, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où il y a vraiment un réalisme imparfaitement parfait qui a drastiquement évolué en un an, quoi. Vraiment. Et donc, du coup, là, forcément, j'ai envie de te demander, mettons, on est client de Style 3D. On est client de style 3D, on veut générer des images, etc. Comment est-ce que on... est-ce que c'est un abonnement ? Est-ce que c'est... Comment ça se passe si je suis une marque cliente ?
Ouais, tout à fait. Effectivement, donc, on est sur le principe d'une SaaS, hein, Software as a Service. Donc, c'est un principe d'un abonnement annuel.
Pour les... Ça n'empêche pas, donc, encore une fois, d'avoir les données cryptées en AdPod, comme tu disais.
Absolument, tout est crypté, tout est sécurisé. On est conforme RGPD aussi, pour répondre aussi à ta question précédente. Extrêmement important en Europe, mais tout comme en Asie, on est aussi sur Alibaba, on est RGPD, hein, je précise, et on répond à toutes les certifications et les normes du marché justement sur ces données personnelles. Donc on est sur le principe d'un abonnement. Pour les entreprises, les corporates, il y a un abonnement sur la plateforme cloud parce qu'on fait appel à ces serveurs, et ensuite c'est un système de décompte de points. À chaque fois que je vais appeler en fait mon serveur et faire une requête, j'ai un système de décompte de points.
Voilà. On est donc, sur combien à peu près en fourchette ?
Bah, en fait, ça va aller de 2 à 4 points à 10 points. Et pareil, les algorithmes ils se sont améliorés depuis un an, ben, c'est moins cher, en fait.
Là, c'est pas très clair. C'est-à-dire que, quels sont, par exemple, les prix de l'abonnement, etc. Une marque qui voudrait vraiment l'avoir à l'année
Oui, alors, je veux pas effrayer tout le monde. Alors, on va peut-être commencer par la partie indépendante, parce qu'en fait, on a le produit pour tester pour les indépendants, style3d.ai, donc, qui commence à 10€ par mois. Donc, n'importe quel indépendant, freelanceur... On fait quoi avec ça ? Ouais. Ah ben, vous pouvez générer, je pense. Alors, j'ai pas retesté dernièrement, mais ça doit donner à peu près 50 crédits. 50 crédits, on doit pouvoir sortir à peu près 10 ou 15 images,
ouais,
par exemple.
Pour faire un test, quoi.
Ouais, pour faire un test, pour tester. Et ensuite, pour les entreprises corporate, donc c'est un abonnement cloud. Donc, bon, voilà. Et ensuite, alors si, pour donner un ordre d'idée, on va être sur 200 000 crédits, c'est des packages à 7 500€. Voilà. Voilà, donc c'est un système, donc non, mais alors on va plutôt ramener à l'image. L'image va revenir, le nombre de, ça va être, en fait ça va revenir à 15 centimes, voilà.
Bon, je sens que c'est un sujet, mais c'est intéressant parce que c'est toujours pas très clair, voilà, mais parce que je voudrais comprendre, disons, une marque se dit, bon bah je fais mon budget annuel, toute la partie pack shot, je la dégage de la partie location de studio, photographe, tout ça, etc. Combien j'alloue dans ma ligne budget pour les campagnes visuelles ? Parce que là, au-delà du pack shot, il y a aussi... Est-ce que vous allez aussi dans la créativité d'une image ? C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, vous voulez, je ne sais pas, moi, tu vois, je pense à la Mugler qui vient de refaire son côté Angel, etc. Donc, sur un fond Galaxy, avec une Théodora, etc. Mettons, on a Théodora. Et on dit, bon bah je scanne Théodora avec ma photo, génère-moi une image de Théodora avec le parfum dans telle position, sur un fond galaxie, avec telle lumière, etc. C'est quelque chose qui est faisable, ça ?
Oui, alors c'est pas notre cas d'usage principal, parce qu'effectivement, je me pense aussi limité en se disant, nous, notre, pour le coup, sur, on veut répondre à cette problématique de masse qui est le pack shot, donc sur des marques middle market et mass market, parce que le luxe, on connaît leurs contraintes. Et que je pense la campagne inspirationnelle va continuer de passer par un directeur artistique, et on continuera de faire des campagnes sur les quais de Seine, sur le Pont Neuf, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important. Enfin, ça, c'est mon avis très personnel. Maintenant, pour aller nourrir les canaux e-commerce, où il faut du contenu rapide,
ouais, c'est ça, vous êtes
vraiment... cheap, accessible.
Alors cheap, je sais pas.
Accessible en termes de temps et de rapidité, parce qu'en fait, tu lances ta requête, t'as ton image en moins de 5 minutes. Hein. Donc après, si tu t'automatises avec ton DAM, c'est extrêmement rapide. Oui, c'est cheap, parce que je te parlais de 15 centimes versus on se parle d'un 20€, hein, c'est ça l'écart de prix.
Et alors vous pouvez...
Donc c'est 100 fois, c'est 100 fois moins cher, hein, si tu veux un ratio. Hein.
Oui, bien sûr, mais par exemple, vous pouvez aussi, parce qu'il y a aussi une grosse question sur quand on parle de la sensorialité, c'est des vidéos. Vidéos, les tombées, oui, en fonction du poids de la matière, de sa friction, de sa prise de la lumière, du tombé du vêtement, vous travaillez aussi sur les questions vraiment là de... pour se projeter dans l'hashtag e-commerce, aujourd'hui, la vidéo, c'est indispensable.
Tout à fait. Donc, effectivement, en fait, la vidéo, hein, c'est très simple, c'est une succession d'images. Donc, effectivement, on a un outil qui s'appelle Image to Video. Vous chargez votre image et ça va vous générer une vidéo de 15 secondes, voilà, utilisable sur vos différents canaux. Moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, à l'heure des référencements qui coûtent ultra cher, hyper important d'avoir du contenu réactualisé très régulièrement pour remonter en référencement naturel sur les sites e-commerce. Alors, vous allez me dire, ah non, mais la fille, elle est un peu has-been parce que maintenant, on rentre dans le commerce agentique, mais... Donc, c'est très prochain, ça.
En France, quand même...
C'est même tout de suite, là. Mais pour le référencement, d'où la nécessité d'aller créer du contenu rapide. Donc, oui, on fait de la vidéo. Oui, je vais te montrer un exemple. Oui, c'est frappant de réalisme, c'est frappant de lumière. C'est bluffant, voilà.
Oui, mais... Ah
ben voilà, elle est là. Merci.
Bah, pas...
Donc, ici, j'ai ma vie. Bon, on mettra sur le site internet. Ouais, oui. Mais voilà, tu vois. Donc, tout ça généré par IA. Et ça nous a pris...
Alors là, la vidéo que je vois là, elle me paraît très IA, pour l'instant. Je ne fais pas confiance, là. L'image me paraît réaliste, la vidéo, je vois que c'est l'IA direct. Donc, ça me... Même en tant que client, j'ai un peu un « Ah, j'ai pas du tout envie d'acheter, du coup. » Donc, ça, voilà. Mais... Bon, ok, intéressant d'avoir ça en tête quand même. Pareil, je vous invite à aller sur Instagram ou sur le site pour regarder. Maintenant, j'aimerais terminer avec une autre question là qui est aussi sur peut-être un peu plus technique ou un peu moins agréable sur l'impact environnemental de l'IA. Ça, c'est un vrai enjeu, énorme enjeu. J'invite les personnes qui seraient intéressées à aller voir le travail du Shift Project sur toutes les questions d'impact digital. Ils ont sorti un rapport très complet là-dessus. Mais est-ce que vous, en interne, c'est des questions que vous avez? Est-ce que vous travaillez sur ces questions-là? Est-ce que vous faites un petit peu des comparatifs ou des calculs environnementaux? Parce que aussi, et j'insiste là-dessus, sur les questions extra-financières et notamment de CSRD et même s'il y a eu un report avec la loi Omnibus, aujourd'hui, les marques sont obligées de suivre la data de leurs impacts. Et aujourd'hui, le digital rentre en compte dans ces calculs d'impact. Donc, on va vous demander aussi si vous avez des outils pour travailler et agglomérer dans le calcul général de la marque les impacts concrets. Mm-hmm. Est-ce que vous travaillez sur ça?
Alors, très, très bonne question. Question très, très européenne. Merci de l'avoir posée. Et ça reflète typiquement, encore une fois, c'est comme la cristallisation sur la créativité, où on en est en Europe.
Bien sûr.
Alors, petit aparté. Très intéressante, hein, parce que effectivement, quand on parle d'éco-responsabilité, de RSE, qu'on demande des certificats auprès des usines, bon, moi, ça me trouble, ça me perturbe même, parce que vous voyagez en Asie et vous observez de vos propres yeux ce qui se passe. Hein. Donc, en fait, on a juste déporté des problèmes d'usines que nous avions en Europe il y a encore 50 ans ou 40 ans, et on les a déportés en Asie.
Oui, mais là, l'occurrence, c'est vraiment sur la question de l'impact de l'IA.
Non, mais bien sûr, mais en fait, c'est exactement la même sujet. Donc, on transpose des sujets et on se met des freins. Donc, oui, on a des données. Ça reste beaucoup moins coûteux en termes d'impact environnemental d'aller générer une image par IA que d'aller prototyper un échantillon physique. Parce que nous, à la base, on fait ça.
Vous avez des calculs sur ça concrets? Alors, c'est pas juste... Enfin, je veux dire, vous avez fait des travaux en interne?
Non, parce qu'en fait, encore une fois, l'Europe est pionnière sur ce type de loi, sur ce type de requête, sur ce type d'information.
Un créatif arrive et de faire entre 1 milliard de prompts avant que ça génère la bonne image, je suis pas sûre qu'il y ait moins d'impact.
Bon, hein. Voilà, alors j'ai quelques informations, donc c'est pas des informations, c'est pas des études de style 3D. Nous, notre priorité, c'est la R&D, c'est d'avancer vite sur les algorithmes. Et la bataille, encore une fois, c'est la Chine et c'est les États-Unis. Simplement, une image générée par IA. Donc, elle émettrait entre 310 et 2900 fois moins de CO2 qu'une illustration ou production humaine équivalente.
Ça vient de
ça, c'est le rapport du Scientific Reports de Nature. Voilà.
D'accord.
Y a une autre étude relayée par Le Monde et Zéro.net. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus illustrable. C'est générer une image IA correspond à peu près à la consommation énergétique d'une recharge de smartphone. Voilà. Mais il faut toujours mettre, je pense, en comparaison. Ok, j'ai généré une image et derrière, si je devais organiser un photoshooting en termes de ressources, en termes de temps, en termes de retouches, voilà. Mais alors,
si... Je comprends bien que vos sujets ne sont pas là-dessus aussi. Enfin...
Non, notre recherche, c'est... nous, notre bataille maintenant, c'est... Enfin, notre sujet, c'est les robots. C'est comment on va commander les robots dans les usines, dans les Black Factories, parce que demain, on va rentrer sur une industrie, une mode. Ça, c'est très intéressant aussi pour... C'est une opportunité pour la France et pour l'Europe. Comment je réduis mes coûts? Et comment nos robots commandés, donc en fait, on a modélisé en 3D, très bien, on a coupé, on a lancé les ordres pour couper à la machine de coupe. Et derrière, il y a un convoyeur. J'ai un robot qui attrape, je vais te montrer une vidéo, qui attrape ma matière. Je le mets dans le convoyeur. Donc, c'est comment j'augmente ma productivité grâce à la robotique, en fait. C'est ça, nos sujets de recherche. C'est ça qui nous intéresse.
Bien sûr, bien sûr.
Mais je dénie pas, enfin, je réfute pas qu'il y a un sujet sur les serveurs. Mais les serveurs, c'est pas nouveau. Hein. Google, ça fait 25 ans, voire 30 ans, ça existe.
Je peux pas ne pas poser cette question. Sûr. Évidemment, elle est centrale quand
bien
même.
Sûr.
Mais on a bien compris que, enfin, de toute façon, on va vers ça. Donc, à un moment donné, c'est juste comment et comprendre. C'est aussi important d'avoir ça en tête.
On va vers ça, mais franchement, on parle de compétitivité. Aujourd'hui, les marques créatives, pour moi, elles sont en Asie. Hein. Et là, ce qui va se passer. Et là, elles sont créatives parce qu'elles utilisent toute cette technologie. Elles ont compris que ça allait aller plus loin.
Voilà. Alors là, parce que vraiment, c'est pareil parce que là, ça va être la dernière question. Et en fait, c'est exactement la raison pour laquelle je voulais t'avoir sur le podcast aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, par exemple, il suffit de parler de Kim Jones aujourd'hui, le travail qu'il fait en Chine, etc. La création et la créativité. Elle va pas très très bien non plus en Europe. Hein.
Oui.
C'est hyper tabou. Oui. Je sais très bien, là, les gens qui m'écoutent et qui bossent dans le luxe sont « Oh mon Dieu !» Mais parce que c'est vrai. Et donc, la problématique, c'est de se dire, en fait, non seulement comment on sort de cet entre-soi, parce que c'est un vrai problème, et comment est-ce qu'on sort, en fait, de la problématique du benchmark, c'est-à-dire la culture du « Que font les autres ? Comment font les autres ?» Essayer de comprendre ce qui vend, ce qui ne se vend pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, on vend la créativité, le savoir-faire français, etc., comme étant le Saint Graal, et en fait, c'est pas tellement la réalité, même au sein des maisons françaises. Alors, je tire le trait quand je dis ça, mais il y a un mouvement de fond qui est de dire que, bon, bah, globalement, la créativité et l'innovation, mais même en étant désirable, même en étant bien, pas juste un objet de performance économique, elle n'est pas forcément en France ou en Europe. Et il faut pouvoir être honnête aussi sur ces questions, donc c'est pour ça que ça permet aussi d'avoir ces dimensions-là. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire, si jamais on veut voir un peu les rendus, si on est potentiellement un metteur en marché ou une marque et qu'on voudrait contacter Style 3D, comment on peut faire pour voir un peu plus votre actualité là, concrètement?
Bah, très bien. Eh bien, première approche, notre site internet, style3d.com, et puis ensuite, effectivement, sur LinkedIn, Valérie Brunet, voilà, donc je ferai un plaisir de répondre, mais l'entrée direct, c'est style3d.com, et puis il y a un petit formulaire de prise de contact.
Et bah très bien, pour toutes les curieux et les curieuses, je vous invite à faire cette démarche là. Bah écoute, merci beaucoup Valérie.
Merci.
Et j'espère que c'était un moment sympa, et puis bah je te dis à très bientôt alors.
À très bientôt, merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et bien évidemment, un grand merci à Valérie Brunet pour cet échange extrêmement éclairant sur un sujet qui, honnêtement, risque de transformer la mode beaucoup plus vite qu'on est capable de l'imaginer. Parce qu'au-delà de la technologie, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est finalement du futur même du regard et de la sensorialité, et en fait de la matérialité. Comment est-ce qu'on introduit une conversation et un lien en tant que consommateur avec les objets par l'intermédiaire des images? Et surtout, comment nous allons produire ces images, construire du désir, représenter les corps, les vêtements, le réel, dans une industrie où tout devient de plus en plus virtuel, instantané et généré? Et comme toujours, si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir Décousu très simplement en partageant l'épisode, en laissant une note ou un commentaire, en parlant autour de vous et surtout en le rejoignant sur son Instagram, Décousu Podcast. Allez, moi je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode.